parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la bandeine, les villes, pour la bandeine.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses à ficher la poubelle.
Voilà, 19h passées de quelques minutes, une et demie, on va dire, à la pendule la plus rebelle des radios. Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 MHz sur Lyon et de partout dans le monde et dans l'univers grâce à la magie des nouvelles technologies. Vous êtes dans le Canu Info, donc la plage d'information quotidienne de Radio Canu avec Delphine au micro bleu. Ouais, ben on t'entend pas alors. En même temps,
ah
là,
mince, voilà. On m'entend pas. Je suis déjà censuré sur ça. Le 102.2.
T'avais et qu'à donc, prendre le micro de couleur de la couleur des flics.
Et oui, et ben écoute, je prends celui qui est en face de moi. Et toi, donc tu as le micro écolo, mais c'est facile de ton côté.
Bien d'accord.
Le micro vert, donc.
Donc nous allons.
Et bonsoir à tous et toutes.
Nous allons parler de plein de choses dans ce Canu Info. On parlera bien évidemment un petit peu de la ZAD, des fachos qui attaquent encore à Lyon, de l'occupation de l'université Lyon 2, des profiteurs d'un truc, je sais pas ce que c'est, donc je te laisserai en parler. Un peu d'Israël-Palestine aussi, d'Azerbaïdjan, dont elle est un peu loin. Des pesticides, parce qu'il paraît que c'est pas très bon à la santé. Alors si vous comptiez en manger ce soir, essayez d'éviter. Et je vais commencer par un petit édito. Je crois que j'avais déjà fait la semaine dernière, deux fois de suite. Je crois que j'ai un peu... Ouais, c'est un peu autoritaire, voilà. Bon, ça arrive des fois.
Je sais pas si c'est pas moi qui commence. Ouais, on perd la tête, rendez-vous compte, nous perdons la tête dans cette société pourrie.
Mon édito qui s'appelle Emmanuel Macron et Marine Le Pen, même combat. C'est une question, bien évidemment. En effet, je me la pose parce que celles et ceux, pas nous, qui ont voté pour Macron pour s'opposer, vous vous rappelez, à la dernière présidentielle, à Marine Le Pen, je me demande ce qu'ils pensent aujourd'hui, quand ils voient finalement Emmanuel Macron mettre en œuvre les idées portées par Madame Le Pen depuis un certain nombre d'années. Ont-ils bonne conscience? Ont-ils mauvaise conscience? Se rendent-ils compte qu'ils ont été manipulés par le système? Je me pose des questions. Effectivement, on peut constater quand même, notamment sur les migrants et la loi de migration que met en œuvre le très à l'extrême droite Gérard Collomb. Ça, on le savait déjà. On peut le constater aussi sur les différentes répressions, les attaques de fac par les flics, hein, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années, la destruction de la ZAD dont on parlera tout à l'heure. Plein d'actions, finalement, que ne renierait pas et que ne renie pas d'ailleurs l'extrême droite. Sur les mouvements sociaux actuels, là c'est un petit peu différent. On a eu une belle intervention aujourd'hui de monsieur Macron qui a choisi comme une chaîne et un journal très particulier, le 13h de TF1, où il a retrouvé, j'imagine, un ami, hein, sinon il l'aurait pas choisi, hein, comme ça. de s'adresser aux Français qui regardent le journal de 13h un jeudi, c'est-à-dire les retraités, les chômeurs, bon, j'espère qu'ils ont autre chose à faire que regarder le 13h. Peut-être le, enfin voilà, je sais pas.
Avant,
qui
on parlait des ménagères, tu sais.
De moins de 50 ans, ouais, c'est celles qui n'avaient pas de travail, tout ça.
Ouais, c'était drôle.
C'était un peu sexiste d'ailleurs, mais bon.
Non,
bref.
Tu crois?
Oui,
non, j'ai pas été assez sarcastique, ouais, dans mon ton, dommage.
Bref, le chef de l'État, puisque c'est comme ça qu'on appelle M. Emmanuel Macron, a rappelé, lors de cette intervention, que les cheminots n'étaient pas des privilégiés. On s'est dit, waouh, il va annoncer qu'ils vont garder leurs droits. Ah ben non, il faut pas être con non plus. Il a dit, je ne partage pas l'idée de ceux qui voudraient les opposer aux Français. Je suis né à Amiens, alors je sais pas ce que ça fait d'être né à Amiens. Je sais ce que c'est. Je sais aussi les horaires que certains font et les contraintes liées à l'entreprise de transport. Bon, on se dit, ça va, il va lâcher un truc. Néanmoins, et quand on dit néanmoins, c'est foutu, bien évidemment, il précise que les cheminots ont une part à faire. Donc il faut qu'ils donnent de leur fric. Hein. On ne va plus les embaucher au même statut que vous, les cheminots, donc ils parlent aux cheminots. On leur demande d'accepter que les futurs agents ne soient plus embauchés au statut. C'est le cas, alors il va citer un exemple, vous allez dire, il dit après, c'est le cas depuis 2001 pour les postiers, et ça ne met en rien le service public en péril. La SNCF restera un grand service public ferroviaire, etc., etc. C'est quand même un énorme mensonge que vient de dire Emmanuel Macron, puisque depuis 2001 et depuis effectivement les changements de statut de la Poste, eh ben la Poste a complètement changé. Aujourd'hui, est-ce que la Poste est un service public? Eh ben non. C'est autrefois la Poste était présente partout, hein, dans presque tous les villages, toutes les petites villes, etc. Aujourd'hui, eh ben, plein de bureaux de poste depuis 2001 ont fermé dans ces petites villes ou dans ces gros villages. Pourquoi? Parce que c'était plus rentable. Quand c'était un service public, la rentabilité intervenait pas. Il fallait rendre service au public, justement. Depuis que la Poste a été détruite par les prédécesseurs de Emmanuel Macron et ses amis idéologiques, eh ben, la Poste n'est plus un service public puisque aujourd'hui, de nombreux Français et autres étrangers qui vivent en France n'ont plus accès à la Poste puisque elle est partie. Ils ont fermé. Donc, effectivement, ce n'est plus un service public à cause des politiques libérales mises en œuvre par ses prédécesseurs. C'est bien ce qu'il veut faire, avec la SNCF, bien sûr. Donc voilà, c'était quand même un beau mensonge. Puis surtout, il s'est bien garder de rappeler que les parlementaires, ils avaient le train gratuit. Ça coûte 800 000 euros par an, ce petit privilège inadmissible et inégalitaire par rapport aux autres Français qui payent le train. Et oui, ça, par contre, ah non, on ne remet pas en cause, bien évidemment, on remet en cause le statut des cheminots qui ne seraient pas privilégiés. Par contre, les vrais privilégiés que sont notamment les parlementaires, c'est-à-dire les élus de la République, qui ont des avantages énormes par rapport aux Français moyens, là, on n'y touche pas. Donc il y a une vraie volonté de sa part, et finalement il l'assume, de ne pas toucher les non-privilégiés, hein, de ne pas toucher, je veux dire, les privilégiés, et d'attaquer les non-privilégiés, que sont notamment les cheminots et plein d'autres. Voilà. Alors, on va revenir aussi sur la belle phrase qu'il a dite lors de la conférence des évêques le 9 avril dernier. Vous savez, la conférence des évêques, c'est ces gens-là, homophobes, qui s'étaient opposés à l'égalité des droits en matière de mariage. Vous savez, sous la présidence Hollande et toutes les manifs pour tous, ils se sont opposés à l'égalité des droits car ils sont contre l'égalité des droits pour les homos. D'où ma qualification, effectivement, d'homophobe. Hein. Bref, Emmanuel Macron a dit, je cite, qu'il voulait réparer la relation entre l'Église et l'État. Alors effectivement, on rappellera ce qu'on oubliait en 1905, on casse la relation entre l'Église et l'État. Avant, il y a une relation très compliquée, très ambiguë, voire trop forte entre l'État et les églises, on va dire. Parce qu'il n'y avait pas que l'Église catholique, il y avait aussi peut-être d'autres gens qui pouvaient intervenir du côté religieux, mais c'était essentiellement l'Église catholique quand même. Alors, on se rappelle des monarchies, hein, c'est-à-dire des systèmes totalitaires en France, qui géraient l'État avec la collaboration de l'Église. Il y a eu quelques petits systèmes autres, totalitaires autres, avec la complicité des Églises. Et en 1905, la République décide de mettre un terme à tout ça. On se rappelle que les Églises ont beaucoup collaboré, beaucoup plus d'ailleurs, avec les systèmes totalitaires qu'avec les systèmes démocratiques. Et ça n'a jamais plu aux cathos, notamment aux cathos intégristes, parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui acceptent très bien la séparation, hein, qui on rappelle, ça ne remet pas en cause les religions. Alors pour nous, c'est décevant, mais le but de cette loi, c'est juste de séparer, hein, qu'il n'y ait plus d'intervention des curés, grosso modo, dans les choix de l'État. Alors, les cathos intégristes, les grands amis de Marine Le Pen, ont toujours lutté contre cette loi, ont sont toujours dit qu'il fallait supprimer cette loi. Et là, on découvre qu'Emmanuel Macron est assez proche d'eux, finalement, donc, parce qu'on découvre aussi qu'il est catholique, et qu'il va donc soutenir ces évêques homophobes pour dire il faudra faire quelque chose pour renouer les liens, refaire, finalement, remettre l'Église catholique, parce que alors pour le coup il est en plus il est raciste avec les autres religions, hein, puisque enfin raciste le mot est mal utilisé, il est enfin il choisit une seule religion, il en parle pas, il veut pas faire intervenir les autres pour l'instant, mais il est capable, hein. Donc voilà. On rappelle, alors pour nous qui habitons Lyon, on a l'habitude de ça. Gérard Collomb avait le même attitude pro-religion en faisant plein de choses avec les cathos lyonnais. Et du coup, pas mal l'extrême droite lyonnaise, hein, puisque cette extrême droite catholique lyonnaise est très traditionnelle. C'est pas les mêmes qui font les agressions en ce moment, mais c'est une forme, une extrême droite qui est très forte, très présente à Lyon. Bon, bref. Celles et ceux qui croyaient que la France serait sauvée du fascisme en votant Macron, ben, voient le fascisme s'installer grâce à lui, c'est sympa, non, la démocratie représentative. Bon bref, si on va plus loin, il faut pas non plus oublier le rôle immonde, il n'y a pas d'autre mot, que joue Emmanuel Macron avec ses petits copains. Alors dernièrement, il a reçu MBS, vous savez, MBS c'est le prince saoudien, c'est l'acronyme de son nom, qui... Et on l'a appris, donc maintenant on sait que Macron a du sang sur les mains. Ça a été révélé par l'Observatoire des armements, la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme, qui a des indices de présence du matériel militaire français utilisé par la coalition saoudienne au Yémen. Ça signifie que le matériel vendu par Macron et ses prédécesseurs et ses amis sert aujourd'hui et a servi hier et servira sûrement demain à tuer de la population yéménite. Bravo Monsieur Macron d'assassiner par matériel militaire interposé des yéménites qui n'avaient rien demandé, bien évidemment. Heureusement, les luttes continuent et la bonne nouvelle du jour, c'est quand même l'acquittement de la bande à Koupa, on va l'appeler comme ça, une bande qui a priori, d'après la justice, n'existe même pas, notamment sa compagne Madame Lévy. Puisque la justice a dit que c'était juste de l'invention, cette affaire Tarnac. Donc 10 ans de procédure, ils ont fait 6 mois de prison. Tout ça mis en exergue, inventé, monté par la droite au pouvoir il y a une dizaine d'années. Vous vous rappelez, c'était sous le gouvernement de Sarkozy, ça devait être Michel Alliot-Marie qui était derrière cette invention de l'ultra-gauche. Donc voilà, la lutte continue, on n'a rien perdu, on n'a rien gagné non plus. Mais du coup, on va parler de Notre-Dame-des-Landes, puisque la lutte, elle continue, et même si on la sent mal partie quand même là-bas.
Oui, alors je vais faire la transition avec ce que M. Macron a déclaré. Il a expliqué, nous sommes arrivés à un point où tout ce qui est évacuable a été évacué. Alors je ne sais pas comment de votre côté vous êtes là, hein, vous qui nous écoutez ce jeudi soir. Depuis le début de la semaine, personnellement, je suis passée de la tristesse à la colère au dégoût. La tristesse parce que voir des gens qui se sont investis sur des terrains, qui ont construit leur vie, non pas des lieux squattés, alors ça, hein, le choix des mots était important ouais. Dans les médias, mais des lieux de vie, tout simplement. Voir ces lieux de vie détruits, c'est-à-dire toute une vie qui leur appartenait, ces zadistes, pour faire court, ben, c'est passé comme ça, hop, en quelques heures, ça a été détruit. La colère, parce que il y a eu toutes ces bleus, ces vilains, comme disent certains et certaines zadistes, pour employer un mot poli, hein, très, très certainement, qui ont envahi Notre-Dame-des-Landes, qui ont envahi ce territoire qui ne leur appartient pas du tout, qui ont matraqué, blessé, malmené, hein, tous ces zadistes. Ce dégoût, hein, de toute cette violence mise en place par l'État, parce que c'est une vraie boucherie ce qui est en train de se blesser à Notre-Dame-des-Landes. Moi, je vous invite un peu à aller voir, hein, les vidéos que propose le site de la ZAD, où on a des explications sur des vidéos autoproduites, hein, qui sont donc destinées à faire un parallèle avec les matériels fournis par les autorités et la police, puisque il faut savoir que les journalistes ont été un peu empêchés d'accéder quand même à la zone d'attaque, hein, détenue, donc avec les routes étaient fermées, hein, par la police, les gendarmes, les gardes mobiles. Donc l'État avait tout prévu, a donc décidé de fournir clé en main de la vidéo, toute prête, hein, pour les télés. C'était bien pratique tout ça quand même. Hein, heureusement, ça les a un peu choqués quand même, les médias et les journalistes.
Ouais, qui ont quand même des fois des sursauts quand ça les touche eux. Quand ça les touche pas, ils ont pas de sursauts.
Bah quand même, c'est peut-être quand même la différence avec l'Azerbaïdjan dont nous parlons tout à l'heure, c'est qu'on a quand même une presse libre dans notre pays. Bon, bah on se rappelle que des fois elle l'est pas tout à fait, hein, parce qu'en plus elle s'est fait même taper dessus, elle s'est fait gazer, cette presse libre de notre République française. En tout cas, toujours est-il que, passé ma tristesse, il y a donc eu cette colère et ce dégoût, parce qu'il y a eu évidemment des arrestations, beaucoup de blessés, et puis il y a l'utilisation de ces armes que moi je vais appeler des armes de guerre, quoi qu'en dise la loi, quoi qu'en dise l'État et les autorités et la police. Quand on utilise certaines armes comme des grenades qui vont se ficher dans la chair des gens.
Ouais, parce qu'en fait, normalement, ils les tirent en tir plombé.
Normalement.
Ouais. Ouais. Et du coup, elles retombent tout doucement. Et en fait, là, ils tirent en tir tendu. Du coup, du coup, ça devient une vraie arme. Et ça blesse énormément. C'est des éléments qui sont soit très chauds, qui sont tirés avec des puissances importantes. Et effectivement, les flics ont l'air d'utiliser directement en tant qu'arme directe sur les résistants, et du coup on a des blessés importants, hein, avec des armes qui normalement sont qualifiées comme non dangereuses,
non létales,
mais dans l'utilisation normale, pas dans l'utilisation
mais même, fond, même ça reste des armes aujourd'hui faites pour réprimer le peuple. Nous sommes le peuple, on se fait réprimer. Hier donc, du côté des zadistes, on annonçait quand même 80 blessés, 3 hospitalisations importantes et nécessaires. On apprend aussi que, par exemple, dans une des vidéos, que les gens ont essayé, de l'équipe médicale sur place a essayé de faire sortir quelqu'un qui devait être emmené à l'hôpital.
Qui était blessé.
Oui, bien sûr, hein, bah ça, on n'emmène pas les gens à l'hôpital juste comme ça. Donc les Bleus ont refusé de faire sortir, disons que maintenant vous êtes des menteurs, hein, aux zadistes. Mais les zadistes ont refusé de laisser, évidemment, emmener, parce que les flics disaient, bah, les gendarmes, laissez-nous donc vos blessés, nous les emmènerons, sauf qu'il y a eu des gens qui ont été pris en charge d'abord par les autorités policières et puis abandonnés en fait sur le chemin. Mais on a des témoignages, hein, des personnes écrasées, c'est-à-dire à terre, qui se retrouvent écrasées sous le pas des gendarmes, des coups de botte. Ça, je savais pas que c'était, donc ça s'apprenait à l'école de police et à l'école de gendarmerie ou des CRS, c'est-à-dire le coup de botte, hein, latéral sur le côté. Je savais qu'il y avait des cours pour bien taper avec le tonfa, mais pas en coup de botte. Ça, c'est quand même une technique assez particulière. Des gens qui sont en position de défense, qui sont tabassés. On rappelle que la France a déjà été attaquée, a déjà été punie, parce que des gens qui sont en position de défense, c'est-à-dire vous êtes au sol, vous vous protégez des coups qui viennent, on vous tabasse, et ben ça, l'État français n'est pas censé le faire. On a vu aussi des personnes jetées dans les ronces, hein, sur les bas-côtés des routes. Une vraie boucherie, voilà, la vérité, elle est là, c'est la réalité. Et donc, M. Macron nous a expliqué que ce qui devait être évacué a été évacué, bien évidemment. Ça, mais alors là, on en est tout à fait tous et toutes bien conscients. Donc un manque de transparence, des attaques avec des armes qui blessent, qui sont pas loin de tuer quand même. Mais en fait, quand on voit comment ça s'est passé samedi dernier lors de cette nouvelle manif pour les migrants et pour les réfugiés ici à Lyon, où on nous envoie les gendarmes en quantité astronomique, les flics en quantité astronomique, on se demande bien si demain on va encore pouvoir manifester de notre bon droit, hein. C'est notre bon droit quand même d'aller dans la rue et de nous associer pour manifester. On se demande comment ça se passe. On se demande d'ailleurs comment on va pouvoir continuer même à militer, quand on voit que Martine, hein, cette militante d'Amnesty International, qui devait passer hier avec son procès qui a encore été une fois reporté pour délit de solidarité avec de jeunes mineurs qui essayaient de se réfugier en France. Enfin, on se dit que quand même tout ça, c'est pas simple. Alors moi, je voudrais juste vous rappeler que il y a des gens qui disent que c'est très mal d'employer ce vieux slogan CRSSS, que ce nouveau slogan, en tout cas nouveau slogan, celui qui revient à la mode dans les manifestations, tout le monde déteste la police. Et ben oui, il est d'actualité. Comment voulez-vous que les gens ne détestent pas la police quand on voit ce qui se passe de partout en France, qu'on voit ce qui se passe dans les universités, les facultés, là où il y a des mouvements avec des étudiants en grève et qui tentent d'occuper des lieux. Et ben moi je vous le dis, il y a une chanson qui commence par mort aux vaches, et ben je pense que va falloir vraiment vraiment la ressortir parce que ça sent très très mauvais. On n'arrête pas de se répéter, j'ai un peu l'impression, sur ce genre d'informations, mais enfin, c'est quand même assez vrai.
Tout à fait. Cette chanson est une chanson de bagnard, d'ailleurs, ce qui explique
oui.
Voilà, le mort aux vaches, mort aux condés, vive les enfants de Cayenne, et tout, etc.
Mais il y a un moment, on la chantait parce qu'ils n'aiment pas en face les Bleus qu'on la chante. Et ben, on va s'en remettre à la chanter, je crois. On va être un peu en fait dans une même optique hein, là, pendant quelques temps, vous nous excusez hein, mais on est un petit peu énervé quand même quelque part, on espère que vous aussi quand même. Il suffit pas d'être indigné, encore une fois, il faut aller au-delà et être plus solidaire et plus réactif.
Alors hier soir il y avait un concert de hardcore, une musique avec des grosses guitares qui fait du bruit.
Allons.
Pas du hardcore techno mais du hardcore
affaire locale,
voilà, affaire locale au Rock and Eat Official qu'est Arloin, avec notamment deux groupes, Mindslow et Heiters. Et c'est un concert qui était plutôt estampillé de gauche, hein, puisqu'on avait, on peut lire sur les sites des groupes des trucs comme nos fascismes, nos sexismes, ou nos racismes, ou des choses comme ça. Donc, forcément, le public était plutôt, et dans la scène hardcore, hein, il y en a pas mal, hardcore metal, des gens plutôt de gauche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vingtaine de membres du Bastion Social, donc vous savez, ces anciens du GUD et ceux qui ont eu leur local muré en début de semaine. Qui ont attaqué les spectateurs du concert. Alors les infos sont pas très précises, savoir si c'était à l'intérieur ou que à l'extérieur. On sait qu'il y a eu des choses à l'extérieur. On a des témoignages qui disent que à l'intérieur les barman auraient pas joué le jeu hein, de défendre ceux qui étaient attaqués. On n'a pas toutes les infos, c'est pas très clair. Il y a pas mal de choses qui sont cachées, on sait pas pour quelles raisons d'ailleurs, même de la part de Rebellion qui donne même pas le nom du bar alors que nous on l'a donné au moins parce qu'on le sait.
Bah, c'est pas très compliqué, hein, nos racismes, nos sexismes, nos fascismes, il suffit de le taper dans un moteur de recherche sur le concert qu'il y avait hier à Lyon et on l'a trouvé voilà. Dans la seconde. Hein.
Puis on est confirmation, donc c'est bien Rock and Eat Official. Donc voilà, alors suite à ça, les flics sont venus et au lieu d'arrêter les fachos, ils ont arrêté un mec qui se faisait tabasser. C'est pas mal comme concept. Bon, vous direz, c'est pas original non plus, d'accord. Du coup, ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené en garde à vue. Une fois à Marius Berlier, ils l'ont, a priori, c'est ce que dit la personne mise en garde à vue, tabassé. Donc le mec il vient de se faire tabasser par les fachos et il dit avoir été tapé aussi par les policiers qui l'ont frappé en garde à vue. Donc là c'est il était content d'avoir une double peine ou une double couche comme ça. Hein. Donc voilà, aujourd'hui il y avait un rassemblement qui était organisé pour demander sa libération. C'était cet après-midi vers 15h. Une trentaine de personnes se sont fait nasser, comme on dit, entourées par la police, pris à partie violemment par les flics. Il y a deux personnes qui ont été interpellées, on ne sait pas ce que ça a donné. En tout cas, le camarade qui s'est fait tabasser, et par donc là, a priori par la police et par les fachos, resterait en garde à vue cette nuit encore. Donc on notera bien, aucun agresseur, c'est-à-dire aucun facho, n'a été arrêté par choix par la police. Ils ont bien choisi d'arrêter un mec à terre qui se faisait tabasser et pas le tabasseur. C'est un vrai choix. Alors vous allez me dire, c'est facile de dire que les flics c'était fachos, etc. Eh ben je vais aller plus loin et je vais vous montrer que c'est pas moi qui le dis, mais c'est une enquête de Mediapart qui nous explique, et je vais donc vous résumer cette enquête de Mediapart qui rappelle que oui, l'islam radical en France n'a pas le monopole du terrorisme. Les menaces d'attentats contre les personnes politiques ont ressurgi en juillet dernier quand a été mis à jour des préparations d'attentats par les groupuscules d'extrême droite dont sont issus le GUD, le Bastion Social et des gens comme ça. Et qu'ils avaient l'intention de passer à l'acte. Derrière la menace terroriste, donc classique maintenant au nom du djihad armé, se dessine une menace qui, elle, vient d'une autre extrême droite, peut-être quelquefois religieuse aussi, mais plutôt du côté des catholiques si elle est religieuse, mais pas forcément, par contre, très orienté sur les mouvements qui se prétendent national révolutionnaires. Hein, c'est une doctrine qui a été pas mal véhiculée par l'extrême droite, le classique, le FN, il y a une vingtaine d'années, et qui est remis à jour par ces groupuscules d'extrême droite. Et on apprend dans cet article qu'en fait, les services de renseignement sont inquiets de la montée de ces groupes d'extrême droite. Vous allez me dire, il n'y a pas que les copains Antifa et nous-mêmes, on est inquiets. Par contre, Gérard Collomb, pas du tout. L'actuel maire de Lyon, M. Kepene, qui en parle, pas du tout, puisqu'ils laissent, eux, s'installer les fachos à Lyon. En tout cas, c'est ce qu'on constate ici. Donc, d'après l'article, effectivement, cette extrême droite, qu'ils appellent l'ultra-droite, mais nous, on va garder le nom traditionnel d'extrême droite, se structure de façon assez inquiétante, c'est ce qu'ils disent. Et ils nous expliquent qu'on retrouve beaucoup de militaires et d'anciens militaires, et dans ces militaires il y a des gendarmes bien évidemment, dans ces groupes. Alors c'est un gradé qui se confie à Mediapart et qui explique que effectivement ces groupes d'ultra-droite recrutent dans la police, dans les forces de répression en fait, globalement, que ça soit les militaires, les gendarmes ou des choses comme ça, hein, des gens comme ça. Et il nous explique que la DGSI, ceux qui s'occupent de ce qui se passe à l'intérieur de la France, s'inquiètent, d'après eux. Bon, ils s'inquiètent, mais on les voit pas agir non plus. Donc, a priori, d'après cette enquête, ils ont une explication sur la réapparition de ces mouvements, c'est cette forme-là. Ils disent, en fait, ça serait en réaction aux attentats de 2015, c'est-à-dire Charlie, et puis les attentats racistes contre les Juifs, etc., que ces groupes se serait formé pour lutter entre soi-disant contre le péril islamique. Alors ce qui paraît bizarre quand même dans la justification, mais c'est ce que nous dit l'article. Et que ces milices, puisque l'article utilise le mot, et a priori les gens de la DGSI l'utilisent aussi, se mettent à draguer les gens des services de sécurité au sens large, c'est-à-dire gendarmerie et armée principalement. C'est ce qu'écrivent les journalistes de Mediapart. On a par exemple un des chefs de ces groupes d'extrême droite, Luc Sommer, qui est un ancien membre des renseignements généraux. Eh oui, les services de renseignement intérieur de la France, qui a milité, qui a permis la constitution de cellules, de militants d'extrême droite, de milices, hein, parce que le but c'est d'aller faire la guerre, c'est d'aller taper. Alors du coup, soi-disant contre la lutte contre l'islamisme, en fait du coup ils tapent que les gens de gauche. C'est un peu le concept aujourd'hui de ces anciens militaires, notamment une certain nombre reviennent d'Irak ou d'Afghanistan, ils rentrent traumatisés. A priori, l'armée s'occupe mal de ces gens qui rentrent traumatisés. Et ces groupuscules d'extrême droite essayent de les récupérer et a priori y arrivent, hein, puisque d'après le site, dans ces groupuscules d'extrême droite, il y aurait une cinquantaine de policiers, gendarmes et militaires. Hein. C'est toujours Mediapart et les intervenants qu'ils ont interrogés auprès de la DGSI et des services de sécurité française qui le disent. Donc voilà. Et il nous explique en plus que le danger ne concerne pas que les villes. Alors, dans les villes, le danger, il est identifié, comme à Lyon, par exemple, le Baston Social, les anciens du GUD, ces gens-là, ils sont repérés. Rien n'est fait, mais ils sont repérés. Et ils disent, ils sont encore plus inquiets de ceux qui sont en dehors des villes, parce que là, ils n'ont aucune info. Et ils ont peur à tout moment qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est pas rassurant, mais on se dit, ok, maintenant, il y a ce constat que balancent les journalistes de Mediapart. On sait que la DGSI s'intéresse à ces gens. Mais pourquoi il ne se passe rien ? Pourquoi le Baston Social s'installe à Lyon, à Strasbourg et ailleurs ? Pourquoi ils peuvent descendre dans notre quartier, attaquer la radio, hein, deux fois il y a un peu plus d'un an, d'attaquer la CNT sans que rien n'ait fait ? Pourquoi ? Alors qu'ils sont soi-disant suivis. Et effectivement, il y a des chances qu'ils le soient, sauf que on constate qui, malgré les avertissements, il y a une énorme complaisance en France des forces de police, voire de la justice et du renseignement sur ces gens-là, puisque ils ne sont à aucun moment, pour l'instant, arrêtés dans leurs actions. On sait qu'il y a eu des agressions à Lyon, il y a eu plein d'attaques avec des blessures. Rien n'est fait. À quoi servent les forces de renseignement ? À quoi servent la police ? Si la police, on sait, à taper les gens de gauche. Du coup, finalement, on comprend des choses avec cet article, hein, du lien entre police et fascisme, puisque, effectivement, il y a des gens qui passent de l'un à l'autre, déjà. Et puis, quand on voit, la cible est la même, finalement, la police attaque aussi les gens de gauche et d'extrême gauche, comme leurs amis, finalement, fachos. Et voilà, alors moi, nous, on le dit ça, on est à Radio Canu, on est sûrement classé à l'extrême-gauche, je ne sais pas où nous-mêmes, mais on s'en fout.
Incroyable.
Ouais, de l'ultra-gauche, fais gaffe, t'es de l'ultra-gauche. Mais n'empêche que c'est un article de Mediapart qu'on peut pas classé ni à gauche ni à l'extrême gauche, et qui le dit et qui interview des gens qui travaillent dans les renseignements français. Donc voilà, c'est pas des faits qu'on invente. On constate les choses régulièrement quand on est militant. Et là, c'est confirmé par des choses, des gens qui sont pas militants, donc ils font que constater les choses. Donc voilà, la situation est inquiète. Il y a une montée de cette extrême droite agressive, de ces milices d'extrême droite, et on constate quand même malgré tout que l'État laisse faire.
Je ne sais pas si tu as dit que le Bastion Social avait été muré par une bande de maçons.
Je l'ai dit très rapidement, mais motivés. Une bande de maçons antifa,
voilà,
a muré symboliquement.
On peut le redire, voilà, j'étais plus sûr, je suis en train de prendre d'autres notes. Alors, pour continuer un petit peu dans ce qui se passe au niveau local aussi, et puis pas que, mais en tout cas dans les luttes, je ne vais pas dire grand-chose sur l'université ici à Lyon. Sachez que, si vous n'étiez pas au courant, il y a eu une assemblée générale qui a voté le blocage de Lyon 2 à Bron, ce qui est une nouveauté, hein, puisqu'on n'en était pas du tout là il y a encore une semaine, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors l'idée de bloquer, ça a été un grand raz-de-marée, hein, le vote a été assez finalement unanime, je caricature un peu, mais c'est assez vrai. Par contre, pour l'annulation des examens, c'est un peu plus délicat quand même. Là, on sent que c'est plus partagé quand même. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, de ce qui est en train de se mener entre Bron et les quais, c'est que il y a des discussions qui sont mises en place, il y a des rencontres, il y a des assemblées générales, il y a des débats, des échanges, et je trouve que c'est aussi comme ça qu'on peut avancer, que ça fait partie de la lutte. Hein, la lutte, c'est pas simplement aller le poing levé dans la rue et puis essayer de se taper avec les keufs. C'est justement de rentrer dans de la discussion, dans du débat politique, c'est-à-dire comment on organise ensemble la lutte, comment on organise ensemble notre société et comment on fait avancer les choses dans notre sens, hein, et bien évidemment, avec évidemment, bah, en acceptant qu'il y ait des gens qui soient pas forcément tout à fait sur la même base de discussion ou d'échange dès le départ, en sachant que dans d'autres universités, par exemple, il y a des endroits aussi où l'UNI, vous savez, le syndicat
de droite,
ouais, droite a été interdit d'agir. Bah, au moins comme ça, moi je trouve que c'est pas inintéressant, parce que de toute façon ils venaient pour dire nous on est contre le débat, le blocus, on veut les examens et tout, donc il y en a qui ont dit hey, ça va, casse-toi, hein, voilà. Ils sont aussi soupçonnés d'avoir un peu tapé d'autres gens, enfin bon, voilà. Donc je peux comprendre que certains et certaines ont envie d'exclure la frange la moins sympathique, hein, des étudiants en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de l'Université Lyon 2 qui, face à ce blocus, ce blocage, a décidé une fermeture administrative, hein, sur les deux sites. Alors ça a deux effets. C'est un de dire ah mais si c'est fermé, vous n'êtes pas en mesure d'occuper puisque vous n'avez pas le droit d'être là. Donc potentiellement, on peut vous envoyer les keufs pour vous vider. Et puis le deuxième truc, c'est que bah, vous n'occupez rien vu que c'est fermé. Hein, là c'est de l'ordre de du symbole et de la symbolique. Mais enfin, bon, c'est quand même assez... On est dans la caricature, hein, de la part d'un certain nombre de présidents et présidentes d'universités sur le territoire français. J'en entends aussi qui vont me dire « Oui, mais tu sais Delphine, c'est quelques centaines d'étudiants. » Oui, mais alors une goutte d'eau, hein, c'est ce qui peut faire déborder le vase et donc peut permettre à la lutte de durer et de se développer.
Et puis on se rappelle que on est rarement majoritaire, hein. Moi j'ai souvenir d'avoir bloqué mon lycée pour la loi de Vaquet, contre la loi de Vaquet. En fait, je suis pas sûr qu'on était majoritaire, hein, sauf qu'on était suffisamment nombreux pour bloquer et pour faire un truc qui a aidé pendant 20 ans les lycéens à ne pas avoir de sélection à la fac, puisque c'était déjà le cas à l'époque, hein. C'était un peu la même chose. Donc voilà, il faut pas chercher la majorité forcément, puisque malheureusement la majorité suit souvent ce qui se passe.
Je vais continuer. Alors il y avait un rendez-vous ce matin à Air France. Bon, 9h15 entrée des syndicats, 9h45 sortie des syndicats.
Ça a pas beaucoup négocié.
Ah, ça a pas du tout négocié, mais alors écoute, je suis assez surprise de ce qui est en train de se passer à Air France, où d'habitude il y a un corporatisme tellement important que ben entre les syndicats ça se tape un peu. Voire ça se déchire, hein, quand même un petit peu au niveau des luttes. Le corporatisme est quand même un gros gros problème dans certaines entreprises. Air France en est un petit peu un symbole, hein, quand même. C'est que les syndicats représentatifs ont demandé la présence des syndicats non représentatifs qui n'avaient pas été invités par la direction. Bah ça, si c'est pas de la solidarité, je sais pas ce que c'est. Donc du coup, à 9h45, ils sont sortis. La grève, hein, se poursuit à Air France, même si les grévistes et les syndicats ont accepté de négocier avec le patronat. L'idée, c'est de le faire quand même tous et toutes ensemble, de ne laisser personne à l'arrière et de surtout gagner. On en est bien conscient. Au niveau de la SNCF, bon, la grève perlée à la loterie continue. Moi, je vous invite à lire sur le site deséchos.fr, leséchos.fr, un texte qui est dans la partie idées débat. Hein, alors ça, c'est toujours un grand. C'est un peu comme sur le site lefigaro.fr. Hein, c'est des grands
débats de gens de droite.
Oui. Et donc c'est un article qui s'appelle Une grève indécente, qui est écrit par Jean-Luc Ginder, qui est un économiste
de droite.
Un économiste, donc, qui fait, alors déjà, qui nous fait un parallèle avec l'abbé Pierre, les pauvres et la grève des cheminots. C'est indigne, face à ceux qui crèvent de la misère. Alors là, on se dit, alors attends. J'ai relu, hein, plusieurs fois l'article, hein, en me disant, non, il y a un truc que j'ai pas compris. En fait, il est de gauche, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Il nous explique qu'il est évident, je le cite, aujourd'hui, que les cheminots ont manqué à leurs promesses à l'égard des autres citoyens. Au lieu d'honorer son obligation sacrée, le cheminot a délivré aujourd'hui un chèque en bois qui est revenu avec l'inscription « provision insuffisante pour raison de sauvegarde de mes privilèges ». Voilà.
Alors lui, quand on a le droit de travailler dans des conditions décentes avec un salaire à peu près décent, c'est des privilèges.
Et alors, il a l'air, attention, de faire aussi la révolution dans son dernier...
Lui qui doit gagner mieux que les privilégiés de la SNCF.
Bah, je sais pas, Pierre Lagrange, je m'en fiche. C'est son dernier paragraphe est tout un projet de société en soi, une vraie révolution. 2018 n'est pas la fin de la SNCF, c'est un nouveau départ. Ceux qui espèrent que les cheminots avaient seulement besoin de se défouler et qu'ils se montreront satisfaits auront un rude réveil si la nation retourne à son train-train habituel. Car alors, moi aussi, avec mes semblables, nous nous mettrons en grève pour avoir les mêmes droits que tous les agents avec statut et bloquerons notre France. Mais oui.
Mais le jour où on a les économistes en grève, la société est sauvée.
Mais oui, parce que allons-y, bloquons la France pour obtenir tous des avantages et des privilèges à la hauteur de ceux et celles en France qui en ont le plus. Mais bien évidemment, je suis d'accord avec Jean-Luc Jolaire, cet économiste qui donc a fait un beau papier sur leséchos.fr. Il faut aller lire ça quand même. Et puis alors, je vous le dis, il y a donc une intersyndicale à Lyon qui a voté un rendez-vous pour le jeudi 19 avril, ça sera donc jeudi de la semaine prochaine, dans l'idée d'avoir une convergence des luttes. Bon, moi, j'avoue, pour l'instant, la convergence des luttes, je la vois pas bien quand même, parce qu'entre Air France d'un côté et la SNCF, alors certes, on a eu des étudiants à Lyon qui ont essayé de rejoindre les cheminots, mais enfin, ça fait pas une grève de travailleurs et de travailleuses, hein, tout ça. Bon, on a un peu du mal quand même à cette convergence des luttes. Peut-être qu'il faut arrêter d'employer cette expression. Et puis que ben les centrales se motivent un peu plus pour essayer de battre le pavé sans corporatisme. Et c'est pas gagné. Hein, c'est pas gagné. Alors je vais continuer avec... Oui, j'ai rien d'autre à dire sur l'intersyndicale, hein, que sur les jeux des autres. On va aller... voilà, parce qu'il faut savoir qu'après, il y aura un autre rendez-vous avec les fonctionnaires, hein, le 22 mai, si j'ai tout saisi. Donc, pff, voilà, c'est pourquoi pas tous et toutes ensemble, hein, comme le dit le slogan. On se demande bien, mais bon, si l'idée, c'est d'embêter M. Macron et ses sbires sur le long terme, allons-y sur le long terme. Je voudrais vous donner des nouvelles d'Eugène Systèmes. Vous savez, ce sont ces salariés de cette entreprise de jeux vidéo dont on vous parle depuis un petit moment, hein, qui était en grève. Je dis était puisque c'était le 3 avril, hein, la grève s'est arrêtée, elle a pris fin et il y a eu donc un nouveau communiqué qui est paru ce mardi de cette semaine où les grévistes nous expliquent. Ainsi, nous avons cessé la grève le mardi 3 avril après plus d'un mois et demi pour conserver nos ressources en vue du futur. Mais ce constat clinique n'entame en rien notre détermination. Bien que la grève soit terminée, le conflit, lui, ne l'est pas. Nous continuons par les moyens légaux dont nous disposons de lutter pour faire valoir nos droits. Ainsi, une quinzaine de salariés et anciens salariés de Gen System ont saisi le Conseil des Prud'hommes. Comme quoi, même après la grève, qui évidemment fait que y a les salaires qui sont réduits. Vous imaginez, un mois et demi quand même dans une entreprise où 24 des salariés sur les 44 étaient en grève. C'est quand même dans un secteur où personne ne bougeait encore il y a quelques temps. Hein, je veux dire, il faut bien le dire. C'est quand même extrêmement important. Et donc là, c'est plutôt bien aussi que ça aille jusqu'au Prud'homme, qu'il y ait une suite à tout ça. Voilà, comme toujours, vous pouvez retrouver ce communiqué sur le site des syndicats des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Et puis poursuivre avec la lutte, Tech Eat Easy, c'était ça dont tu ne savais plus ce que c'était comme entreprise, peut-être.
C'est un truc de livraison à vélo, là.
Oui, c'était, puisque ça a été liquidé en 2016, en août 2016. C'était une enseigne belge, mais du coup, ça devient une multinationale. Moi, je pense que dès qu'on passe les fameuses frontières qu'on nous impose, par Dieu, il y a un peu une multinationale. Donc, il y avait des auto-entrepreneurs, comme on disait avant, des micro-entrepreneurs, micro-entrepreneuses, qui travaillaient pour Tech Eat Easy, qui ont mercredi déposé des plaintes à Paris, des plaintes devant le parquet national financier pour que il y ait un peu des attaques qui se mettent en place. Parallèlement à ça, il y a des procédures devant les prud'hommes. C'est 114 micro-entrepreneurs, livreurs, livreuses qui ont travaillé pour cette plateforme de livraison de repas. Donc, il y a de Paris, de Lyon, de Nantes, de Rennes, de Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier, de Nice, de Strasbourg, de Grenoble, je vais arriver à faire la liste, qui donc groupés collectivement, se sont mobilisés collectivement pour déposer une plainte. L'idée, c'est de faire reconnaître qu'il y a eu des choses pas claires avec cette entreprise et qu'il y a eu du travail dissimulé, qu'il y a eu un lien de subordination permanent et absolu, comme ils le disent, qu'il y a eu des choses pas claires en termes d'horaire, de matériel fourni, de contrôle du travail constant, qu'il y a eu des refus après de donner du travail dès que quelqu'un ou quelqu'une osait ouvrir la bouche et se rebeller un tantinet. Donc voilà, c'est plutôt aussi une bonne chose que ça se mobilise aussi dans tous les secteurs. Voilà pour cette partie un petit peu lutte.
On va partir à l'international un petit peu, avec deux mots sur Israël-Palestine. On dit souvent que la situation est critique en Israël, qu'il n'y a plus de parti de gauche, il n'y a plus rien, mais il y a quand même une petite résistance. Alors même si elle est très faible, elle existe encore et on va vous parler de ça, une résistance interne chez les Israéliens, à ce que fait le gouvernement d'extrême droite aujourd'hui en Israël. Alors c'est en fait, tout ça est sorti d'une vidéo qui a été postée par une organisation pour la paix israélienne qui s'est approchée des gardes de l'armée israélienne à la frontière de Gaza. Vous savez ce qui se passe, il y a eu une manifestation avec de la répression de la part de l'armée israélienne. Donc les militantes de cette gauche israélienne, enfin ceux qu'en reste, sont allés sur cette frontière et ont interpellé les soldats. Et on voit donc dans ce clip vidéo qui a été partagé lundi sur la page Facebook, notamment de Ronny Barkan, qui est cofondateur d'un mouvement qui s'appelle Boycott from Within, c'est-à-dire boycotter de l'intérieur, qui incite à boycotter son pays en tant qu'Israélien, quoi, enfin, qui va très loin. Dans cette vidéo, alors qu'est-ce qu'on voit ? C'est super intéressant. On voit plusieurs soldats donc informer les activistes qui s'approchent d'eux et qui filment que la zone est fermée. Et là, on voit la caméraman, c'est une caméraman, puisqu'on entend sa voix, qui n'est pas visible, qui dit « Maintenant, nous avons aussi une femme persécuteur. » Pourquoi elle dit ça ? Parce qu'en face d'elle, c'est pas un soldat qu'elle a, c'est une soldate. Et elle lui dit « N'avez-vous pas honte de massacrer des civils ?» Et lui demande d'avancer, de la laisser passer. Elle répond elle répond non, qu'elle a pas honte et qu'elle peut pas la laisser passer. La femme derrière la caméra lui dit mais vous êtes une terroriste, et l'autre lui répond non pas du tout. Donc il y a une espèce de dialogue de sourds là entre l'activiste et la soldate. Après, on voit un gros plan sur ce qui se passe au loin, c'est-à-dire avec de la fumée du côté palestinien, en fait, de la bande de Gaza. Et puis, la caméra revient sur les militantes et les soldats. En fait, il y en a trois, dont une soldate. Et là, on voit les autres. Et les militants disent, voilà, vous êtes les soldats de la terreur, vous massacrez des civils, des innocents, c'est honteux. Et là, les militaires répondent très peu, lui disent juste que vous n'avez pas le droit de passer. Alors, les autres, ils disent, mais on est juifs, on est israéliens, ils essayent, et les autres leur disent, non, vous n'avez pas le droit de passer. Alors, ce qui est intéressant, c'est le comportement de la soldate et des deux autres soldats, c'est de pas répondre, de d'être super mal à l'aise face à des Israéliens. Et là, pour le coup, une Israélienne qui parle et qui dit « Vous êtes des terroristes, je suis juive, vous êtes des terroristes, vous tuez des innocents palestiniens. » Et on sent que la soldate, elle sait pas quoi faire, en fait. Alors, elle est dans l'armée, donc elle dit non, mais dans son visage, dans ses actions, on sent qu'elle est embêtée. Alors, cette vidéo, elle a comme particularité de montrer ces soldats qui sont jeunes, qui sont mis en avant comme ça par l'armée israélienne. Vous savez que l'armée est obligatoire sauf pour ceux qui refusent, qu'on appelle les refusniks, qui font de la prison à la place. Mais on voit un petit peu qu'il y a de la résistance et que même ceux qui sont sur le front, en fait, ils obéissent et qu'ils sont dans la propagande. Mais quand, bon, il serait avec un bon discours possible qu'il bascule un jour du côté des activistes. Voilà, c'est ce que ça montre cette vidéo. Alors, on rappelle quand même que les manifestations des Palestiniens étaient pacifiques. Alors, sûrement instrumentalisées par le Hamas, il n'y a pas de souci là-dessus, mais elles étaient pacifiques et c'est bien des gens pacifiques qui se sont fait tirer dessus et assassiner par l'armée israélienne. Voilà. On rappelle qu'il y a eu aussi en début de semaine une vidéo où on voyait un militaire qui tuait d'une balle directement un Palestinien. L'armée a soutenu son militaire en disant que c'était normal qu'il fasse ça, etc. Donc ça montre quand même que cette vidéo qu'il y a une petite réaction de la part de certains groupes. Donc là, il y a un groupe de résistants israéliens et qui s'opposent à la politique du gouvernement. Alors ça, c'est pour la première info. Et il y a une deuxième info qui est né d'une action de la part d'un autre groupe d'amitié franco-palestinienne, en fait, qui chaque année, le 17 et le 18 avril, en Israël, ça s'appelle la fête du souvenir. Et on fête les soldats qui sont morts au combat. Et cet assaut israélo-palestinienne, elle fête aussi ce jour du souvenir en disant mais faut fêter ceux qui sont morts au combat, mais des deux côtés, pour rappeler que la guerre, c'est horrible, et que ça tue des deux côtés. Alors bien évidemment, ça énerve tout le monde et ça a énervé le ministre de la Défense, qui est donc d'extrême droite, Avigdor Lieberman, qui a déclaré que cette année encore, il interdisait les 110 Palestiniens qui devaient venir à cette fête de rentrer en Israël pour participer à ce service commémoratif israélo-palestinien qui devait avoir lieu. Voilà. Alors, c'est l'année dernière, ils avaient tenté de le faire et à nouveau, le gouvernement s'était opposé à la venue des Palestiniens. Alors, autrefois, le gouvernement s'opposait pas à la venue des Palestiniens. Ça fait un certain nombre d'années que ce jour de souvenir est commémoré à sa manière par cet assaut israélo-palestinien. Ça fait parler, ça énerve, et du coup, depuis 2 ans, le gouvernement a décidé d'empêcher ces gens qui militent pour la paix. En fait, l'idée, hein, c'est de dire, voilà, ça tue tout le monde, faudra peut-être arrêter que ça tue tout le monde. Or, le gouvernement ne veut parler que des morts israéliens qui se battent pour l'État d'Israël dans l'idée du nationalisme israélien porté par Lieberman et les autres, hein, ces gens soit de droite, soit d'extrême droite pour Lieberman. Donc voilà, c'était juste pour dire que il y a différentes petites formes comme ça de résistance en interne en Israël. On les valorise pas parce qu'elles sont minimes, mais il faut pas les oublier. Il y a quelques personnes comme ça, ces groupes qui résistent. Il y a un groupe de femmes aussi, de mamans en fait israéliennes qui ont des liens avec les mamans palestiniennes pour aussi faire parler de leurs enfants qui sont morts des deux côtés par ces conflits imbéciles. Donc voilà, c'est juste pour rappeler ça. Donner des petites infos, même si c'est négatif, parce qu'ils se prennent le gouvernement en pleine gueule. Voilà, la résistance, elle est énorme en Palestine. Ils n'ont pas le choix, les Palestiniens. Ils résistent ou ils sont écrasés. Et il y a aussi un petit reste de résistance en Israël. Et ils ont quand même, pour le coup, bien du courage, parce qu'ils sont vraiment mis au banc de la société israélienne quand on est de gauche aujourd'hui et qu'on veut la paix, en fait. Voilà. C'était mes infos israélo-palestiniennes du jour.
Alors, on va partir en Azerbaïdjan. Juste pour rappeler, le pays est à la 162e place sur 180 dans le classement 2017 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Bon, ils peuvent encore descendre.
Tout à fait.
Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas tué tous les journalistes.
Et non, il y en a beaucoup qui sont en prison, tu sais.
Ah oui, voilà. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tous dans la dernière marche.
Et donc là, on a eu encore une fois. Ça se cumule, hein. Enfin, il y en a plusieurs en ce moment comme ça. Là. Une belle élection. tout en démocratie, encore une fois, puisque Ilham Aliyev, qui est donc au pouvoir depuis 2003, on rappelle que c'est son papa qui était là. Donc on est quand même un peu dans la transmission de la chose.
Une sorte de monarchie, quelque part. Post-communiste.
Dynastie.
Une dynastie, ouais, c'est mieux.
Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux. Il y a toujours des débats entre les historiens. Est-ce qu'on doit appeler ça une dynastie ou pas? Mais oui, voilà. Mais bon.
C'est un peu comme la Corée du Nord.
On voit un petit peu l'idée, quand même. Oui. Alors, il a obtenu. Alors, c'était un dépouillement partiel. Qui s'est fait hier.
Il a un bon score quand même.
86,1% des voix.
Et n'empêche que c'est moins bien que Sissi en Égypte.
Ah oui. Mais c'est pas mal.
Non, mais c'est pas mal.
Ils sauvent les meubles, quand même.
Ouais, non, mais c'est pas mal.
Mais en même temps, bon, on sait qu'il y a des intimidations, des représailles. Alors, il y avait bien une opposition qui a tenté de faire boycotter ces élections, en disant, genre, allez pas voter, sauf qu'on a a priori un peu forcé les gens à y aller. Et il y avait même pareil, comme ailleurs, des faux opposants, c'est-à-dire pour montrer qu'il y avait plusieurs candidats potentiels, et il y avait les amis.
comme finalement Sissi en Égypte.
Tout pareil. Alors, en plus, il faut savoir que c'est quand même un monsieur qui se débrouille très très bien, puisqu'il arrive à utiliser les ressources du pays pour se créer une belle fortune, pour payer des gens à l'international. Même certains députés français, on ne sait pas bien ce qu'ils auraient eu en cadeau. On ne sait pas bien. Pour être aussi gentil avec l'Azerbaïdjan, parce que là, c'est quand même pas crédible.
Tu sais, il y a un groupe France-Azerbaïdjan.
C'est ce groupe dont je parle.
Il y a un groupe France-Syrie qui est fan de Bachar el-Assad.
Oui.
Alors, on imagine bien, le Front National est fan de Bachar el-Assad, tout ça, on a déjà eu des échos. Mais il y a ce groupe de droite, en fait, c'est des militants de droite, mais aussi quelquefois des élus, autrefois de gauche, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, le Parti Socialiste. Dans ces groupes-là, d'amitié, soit franco-syrienne, soit franco-azerbaïdjanaise. Alors, soit ils se font acheter, soit ils sont bêtes. J'ai pas de réponse à la question, tellement que c'est évident de pas.
En tout cas, bon, moi, là, j'ai pas une preuve, donc c'est pour ça que je demande, quoi, quand même. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même eu un travail journalistique de plusieurs médias en Europe qui s'étaient attaqués à l'Azerbaïdjan un petit peu pour savoir d'où venait cette fameuse richesse de cette dynastie, on y met des guillemets, de savoir ce qu'il faisait de cette richesse et à qui il pouvait bien la redistribuer. Donc il y a quand même eu une enquête là-dessus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il tue toute la démocratie, monsieur Aliyev, puisque en 2009, il y a eu un référendum qui a aboli la limite de 2 mandats présidentiels et que parallèlement à ça, il y avait une immunité qui avait été mise en place. Donc ça veut dire que lui et ses amis ne peuvent plus être inquiétés par la justice et que les médias, les journalistes, ne peuvent plus enquêter sur lui et ses amis. Vous voyez un petit peu l'idée. En 2016, il y avait eu un référendum qui a permis de passer le mandat présidentiel, de 5 à 7 ans. Le même référendum a permis de créer un poste de premier vice-président. Et qui c'est qui est au poste? C'est la madame, c'est sa femme. C'est bien fait, moi, je trouve.
Il est en train de faire un peu comme a fait le président dictateur chinois, de s'installer définitivement au pouvoir. Là, il a tout modifié pour pouvoir rester jusqu'à qu'il meure.
Alors c'est surtout que c'est un peu comme en Russie, c'est-à-dire que les ONG ne peuvent plus être financées comme elles le souhaitent, c'est-à-dire que tout financement doit être maintenant expliqué, rapporté aux autorités en Azerbaïdjan. Ah bah oui, on milite pas comme on peut, je veux dire, c'est pas simple. Il faudrait pas que, comme en Russie, il y ait une rentrée de l'argent d'un pays démocratique et qui pourrait aider les opposants et les opposantes à peut-être vaincre ce monsieur, mais c'est pas gagné, lui et sa famille, bien évidemment. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire qu'encore de belles élections dans le monde.
Oui, c'est pas mal. Eh bien, on va revenir en France et on va parler de pesticides. Puisque nous avons lu, enfin moi, le bulletin épidémiologique hebdomadaire.
Oui, parce que moi je ne l'ai pas lu.
De l'Agence de Santé Publique France. Alors, ça existe vraiment, je n'invente pas. C'est un PDF qui est disponible sur Internet, le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Agence Santé Publique France, donc un truc de l'État, et qui vient de rendre publique une étude portant sur l'incidence de la maladie de Parkinson chez les agriculteurs et chez la population qui vit proche des lieux d'agriculture. Voilà. C'est un truc relativement intéressant. Pourquoi ? Parce que les conclusions soulèvent de nouveau la question de la protection des populations riveraines exposées à ces toxiques, puisque ce sont que des produits toxiques, les pesticides. et ça repose aussi sur les produits, enfin repose la question sur les travailleurs agricoles. Mais c'est pas très intéressant sur les travailleurs agricoles puisqu'on connaissait déjà. Alors l'étude montre qu'il y a 13% de plus de risque de déclarer la maladie de Parkinson pour les exploitants agricoles qui sont donc affiliés à la mutuelle sociale agricole, le régime de santé des agriculteurs, par rapport aux personnes affiliées aux autres régimes de sécurité sociale, de santé. Donc ils ont 13% de risque supplémentaire. On dit toujours ils vivent à la campagne, tout ça, ils respirent l'air pur. Pas du tout. Ils ont beaucoup, on ne parle que de Parkinson. Si il y a beaucoup d'autres impacts sur les cancers, etc. Mais là, on parle que de Parkinson. Donc ils ont 13% de risque supplémentaire d'avoir Parkinson. Et puis surtout, l'étude a regardé l'impact, le taux de Parkinson chez les populations qui vivent autour de régions viticoles. Puisque la viticulture en France, c'est ce qui utilise le plus de pesticides. Et là, on a 10%, ce qui est relativement important, de risques supplémentaires pour les personnes qui habitent proche d'une terre agricole avec du raisin. Enfin, voilà, des terres viticoles. Alors, c'est des chiffres scientifiques, c'est sérieux, c'est pas un truc inventé comme ça. Et ça redémontre une fois de plus, et ce qu'on savait déjà, c'est qu'effectivement, les pesticides, c'est très dangereux pour tout le monde, pour ceux qui habitent à côté, les écoles, notamment, il y a plein d'écoles, de maternelles, de petites classes, là, qui sont à côté de ces champs, de ces vignes, et qui respirent donc ces particules de pesticides, puisque ça passe dans l'air, en fait, et qu'il y en a de partout. Alors, ça tombe bien, c'est le moment où les députés travaillent sur un projet de loi sur l'alimentation et l'agriculture. Donc on se dit, les députés, ils vont sûrement rajouter des trucs contre les pesticides pour protéger les populations, puisque le but des lois et des députés, normalement, c'est de protéger la population pour pas qu'elle meure. Alors, il y a pas mal d'assos, notamment Génération Future, qui ont posé des questions aux députés. Et leur réponse est que, alors oui, il y a des députés qui sont réceptifs, mais malheureusement, c'est ceux de la France insoumise, c'est-à-dire qu'ils sont minoritaires. Quand ils ont amené cette étude, ils ont posé des questions aux députés de la majorité La République En Marche de M. Macron, et ben eux, ils sont contre. Eux, ils disent, non, c'est bien de tuer les gens. Alors, ils disent pas ça comme ça, ils disent, non, on va pas faire de choses contre les pesticides, on peut pas. Voilà. Ça, c'est beau quand même. Donc, vraisemblablement, Macron et La République En Marche sont très très fans des pesticides. Ils pensent aussi peut-être que c'est bien de tuer de la population, c'est bien de rendre malade la population. Je n'ai trouvé aucune raison justifiant le fait qu'on rende malade ces gens. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'on rende malade des gens juste pour avoir du raisin. Puisqu'on peut avoir, on rappelle quand même, du raisin bio, c'est-à-dire sans ces pesticides pourris. Donc c'est pas une raison d'avoir du raisin. Alors si, ça, on en a plus, mais est-ce qu'on en a besoin de plus ? Non. Donc voilà, il y a un vrai problème de santé publique, c'est un vrai acte criminel de ne rien passer dans la loi. Alors on va attendre, puisque pour la loi n'est pas encore passée. Mais s'il n'y a rien dans la loi, alors que les études sont connues, c'est un choix volontaire du gouvernement et des élus amis de Macron et de La République En Marche de ne pas protéger les populations et de, du coup, permettre, enfin, faire que des gens vont mourir et des travailleurs aussi, puisqu'on ne protège pas non plus les travailleurs, c'est de ça aussi dont il est question. Voilà, c'est la dernière étude qui est parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'agence Santé publique France, donc, et qui n'est pas rassurant. C'est bientôt la fin de ce Canu Info, nous avons fini, nous allons faire un petit agenda.
Oui, d'abord demain vendredi.
Ah bah yes.
Vendredi, donc à 19h, ça va se passer au local des syndicats de la CNT 69, c'est-à-dire au 44 rue Burdeau, sur les pentes de la Croix-Rousse, enfin en bas de la pente précisément, dans ce qu'on a appelé, ce qu'on peut continuer encore à appeler, le collectif utilitaire lyonnais. C'est une soirée pour rendre hommage à notre ami et camarade Bibi, qui nous a quitté il n'y a pas très très longtemps. Voilà.
Qui s'occupait du cafeton, en fait, ce café de la CMT qui était ouvert notamment le jeudi soir. Pendant
Alors c'est
ans.
Une soirée festive et militante. Famille, amis, collègues, camarades, voisins, voisines, venez boire un verre demain soir à partir de 19h. Et puis Bibi, c'était un antifasciste, un ancien de la CNT. Il aurait certainement été très 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 content qu'on perce des fûts pour donner les bénéfices à la CNT, puisque c'est en fait l'association de quartier Tiens Bon la Pente qui organisait les repas de quartier Place Colbert l'été, et qui a fait des repas à prix libre et de saison dans un certain nombre de locaux militants associatifs sur les pentes, je crois que ça peut-être ailleurs, mais surtout sur les pentes. Voilà, donc c'est Tiens Bon la Pente qui fait un hommage à Bibi et qui va donner tout son soutien, c'est-à-dire tous les bénéfices
à la CNT. On rappelle que la CNT a été attaquée par les fachos il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, et que, enfin même une dizaine de jours, et que ça va permettre de payer la franchise notamment, hein, puisqu'il faut changer la vitre et qu'il y a une grosse franchise dans les assurances. La CNT a besoin d'aide aussi, donc c'est une double occasion. On rend hommage à Bibi et on est solidaire avec la CNT.
Exactement.
Je vais parler de samedi, justement parler d'Israël-Palestine. Il y a un rassemblement à 15h place de la République pour sensibiliser les gens, et si vous voulez des infos sur ce qui se passe à Gaza, et notamment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les actions et les assassinats de l'armée israélienne sur les Gazaouis qui s'approchent un petit peu trop de la barrière de sécurité, puisque c'est comme ça que ça s'appelle.
Alors j'ai pas donné le rendez-vous de jeudi pour l'intersyndicale. Si j'ai tout suivi, mais vous irez vérifier, parce que des fois mon cerveau peut mal se connecter, c'est au Breteau à 13h30 le jeudi 19 avril pour être dans la rue et malgré tout être ensemble. Voilà, je sais, on en a marre d'aller dans la rue défiler, mais là c'est peut-être le moment de se dire que ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup, hein. Si, on va dire que ça va valoir le coup et on va y aller.
Voilà, faites attention quand vous sortez dans les rues, parce qu'il y a...
Mais sortez dans les rues. Allez-y, il n'y a pas de souci.
Voilà, c'est la fin de ce Canu Info. On retrouve l'équipe du vendredi demain vendredi, puisque nous, c'était l'équipe du jeudi, parce qu'on est jeudi. Il y a une relativement grosse logique, voire c'est très rationnel quand même, Radio Canu. Il y a les Canu Info, c'est tous les jours de la semaine, 19h-20h, et vous pouvez retrouver aussi les archives, en fait, les podcasts sur les blogs. Donc nous, on a un blog qui doit s'appeler Canu Info du jeudi. Et vous tapez Radio Canu, Canu Info du jeudi, vous tombez sur le blog et vous avez, si vous avez raté un Canu Info, vous avez les podcasts des Canu Info.
Là, vous avez de la balado-diffusion.
Voilà, c'est ça, la balado. Moi, je préfère podcast quand même. Tant pis pour l'anglicisme. Voilà, et on vous laisse en compagnie de la petite cuillère qui arrive d'ici quelques secondes.
Et tu ne seras peut-être pas là la semaine prochaine, mais en tout cas...
Je ne serai pas là la semaine prochaine, mais des camarades que j'embrasse au passage vont venir me remplacer.
Ouais, super, à la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao, ciao. Ça ne démarre pas, ça y est.